عجلة المرجان. أنا أحسب بك حجرة المرجان يا يخدموا بك البرايا
bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb sur les ondes de Radio Centre-Ville. Comme d'habitude, donc l'émission Taxi Maghreb est avec vous un samedi sur deux sur les ondes de Radio Centre-Ville. Avec vous à l'animation ce soir, donc Karim et Lamine. Bonsoir Karim.
Bonsoir Lamine, bonsoir amis auditrices et auditeurs.
Donc ce soir, nous allons avoir une émission en deux parties. La première partie, nous allons recevoir M. Mohamed Lekhal, président de l'association Cercle des sportifs algériens au Canada. Donc l'objectif, c'est de présenter la situation, mais aussi un appel à la communauté. Les jeunes algériens qui sont nés entre 96 et 99 peuvent participer à une activité que l'association va organiser très très bientôt. Et d'autre part, pour notre émission, la deuxième partie, à partir, je dirais, de 11h, peut-être 11h moins 5, nous allons aborder le sujet de l'actualité en Algérie, le discours du président Bouteflika qu'il a prononcé le vendredi, donc hier soir, à la Nation. Nous allons avoir M. Ali Haouchine qui va nous rejoindre, politologue, à partir de 11h pour analyser le discours, pour parler de ce discours. Est-ce que réellement il porte un espoir de changement ou c'est du déjà vu? Bien sûr, on parlera un petit peu de cette date historique, le 16 avril, qui est Yom l'Elm, mais aussi c'est à la mémoire de donc un des fondateurs du mouvement Islahi en Algérie, Abdelhamid Benbadis, rahimahullah. Et on fera tout ça avec vous, comme d'habitude, au 514-495-2597. Karim, donc nous allons commencer avec notre invité pour parler du cercle des sportifs algériens, Monsieur Mohamed Lekhal, qui est parmi les rares, je dirais, quelques Québécois et Canadiens d'origine algérienne qui ont un diplôme A ici au Canada, diplômé aussi, donc il a une licence A au niveau du football, toujours au soccer dans l'Union européenne, et une licence aussi au niveau de la CAF. Karim, il est avec nous ce soir pour nous parler de l'association, mais aussi pour parler de l'activité qui va arriver bientôt.
Merci Lamine. Bienvenue à Monsieur Lekhal Mohamed. On aimerait, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un, au moins un Algérien qui a la licence A. On sait que au Canada, il n'y a pas beaucoup de personnes qui atteignent ce sommet. Donc, ça nous fait plaisir de vous avoir parmi nous. On va parler de votre association, bien sûr, le cercle des sportifs algériens au Canada. On aimerait bien savoir de quoi il s'agit.
Bonsoir à tous et à toutes. Écoutez, l'association est très très récente et nouvelle. Le but de cette association, ça a été réfléchi depuis très longtemps. Depuis que je coach au niveau Ligue Elite, on a un problème au niveau de nos jeunes. On a beaucoup de potentiel chez nos jeunes et que ce potentiel-là, il disparaît d'année en année. Et ces jeunes-là, ils sont pas pris en charge, ils sont pas encadrés, ils sont mal encadrés et ils sont laissés à eux-mêmes. Alors nous, on a réfléchi, on a dit bon, écoutez, on peut pas perdre ces jeunes talents et il faut essayer de trouver quelque chose pour pouvoir les encadrer et les aider. Ça c'est une. La deuxième des choses, c'est que on veut aussi les faire participer à des échanges culturels et sportifs à travers leur pays d'origine, qui est l'Algérie, et dans le but de promouvoir ces jeunes-là, jeunes Algériens avec du talent, à prendre part peut-être un jour dans des sélections algériennes et dans des équipes nationales de jeunes, pourquoi pas chez les équipes nationales seniors. Alors le but, c'est de les préparer, les former et pouvoir les aider à intégrer le haut niveau. Et c'est pas seulement au niveau algérien, surtout ce qu'on veut, c'est de leur donner la chance d'atteindre leur souhait et leur désir. Et souvent, la communauté algérienne ont du talent, ils ont le désir de continuer, d'aller le plus loin possible et de progresser. Ça, c'est une chose. Et de l'autre chose, une autre chose, c'est qu'on a des contacts au niveau de la Fédération algérienne et aussi au niveau des clubs algériens qui sont prêts à inviter ces jeunes-là à prendre part à des tournois algériens et à des tournois de jeunes et des un peu plus vieux. Et le but, c'est de les encadrer, les garder ensemble jusqu'à un niveau plus haut.
Merci pour cette clarification. On sait que maintenant, c'est avant, c'est vrai, il y avait peu d'écoles de football en Algérie, parce que on voit bien notre niveau de championnat national qui est devenu maintenant professionnel. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais parce qu'il n'y avait pas ces joueurs. En fin de compte, ils sont pas sortis d'école. Il n'y avait pas d'école en Algérie. Il y avait des minimes cadets juniors, puis montés, puis il n'y avait pas la base, vraiment les passes, les choses importantes pour la base, pour donner aux petits jeunes. Donc maintenant, alhamdoulilah, si on regarde en Algérie, il y a beaucoup d'écoles de football. En l'occurrence, il y a l'école de football Baraim de Chaab El Merskan, bien sûr, elle est connue. Il y a une autre, il y a le Parado Athlétique aussi, qui est l'école de football qui est dirigée par le Jean-Marc Guillou, le français, depuis à peu près 5 ans. Les jeunes, ils ont atteint quand même 16 ans à peu près. On les a vus jouer, ça fait plaisir. Donc vous, si on veut dire, votre but, vous avez expliqué votre but, c'est de donner l'occasion à ces jeunes d'aller peut-être signer en Europe ou dans des équipes professionnelles, ou même d'aller en Algérie et bien sûr d'atteindre l'équipe nationale, les différentes équipes nationales de football. Donc mais est-ce que c'est quoi l'objectif à moyen terme et long terme, si on veut dire?
À moyen terme, c'est sûr et certain, il y a absolument rien qui arrive tout seul. Il y a toujours un sacrifice qui doit être fait à travers ces jeunes-là. Les jeunes qui sont passionnés, qui veulent en réalité avancer, c'est sûr, à moyen terme, c'est d'intégrer le plus haut niveau ici au Québec. C'est sûr, si on n'atteint pas le plus haut niveau au Québec, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans des pays où le football, c'est une culture. Alors, c'est sûr et certain, on veut atteindre des niveaux très intéressants et que c'est possible. On a des jeunes très talentueux. Moi, je peux en témoigner parce que, bon, j'ai une équipe qui est issue de 7 Algériens et qui a été champion l'année dernière en moins de 21 ans et qui peut être même compétitive au niveau senior ici au Québec. Et qu'il y a 2 Algériens à l'intérieur de ce groupe-là qui ont un niveau national et qui ont même un niveau international. Ces 2 jeunes, malheureusement, on n'a pas pu les intégrer au niveau de l'IC nationale des moins de 20 ans parce que l'IC nationale a été éliminée au moins de 20 ans. Mais ça aurait été une excellente opportunité pour l'équipe nationale algérienne des moins de 20 ans.
Puisque vous avez évoqué l'âge, oui. On aimerait savoir, là, votre projet, ça concerne, genre, c'est quoi la moyenne d'âge des joueurs ou la limite d'âge? Ça va être une école de football, j'imagine, donc.
En réalité, c'est une école un peu plus poussée, en réalité, un peu plus poussée dans le sens où on va leur donner les outils nécessaires pour pouvoir atteindre le haut niveau. Et souvent, ce qu'on fait ici au Québec, c'est du bricolage. On a un jeune, je connais 2 jeunes Algériens qui ont un talent fou sur la rive sud, Longueuil. Mm-hmm. Et ces 2 jeunes, il y en a un des deux, ces 2 frères, un des deux frères joue en Ligue nationale canadienne. Mais quand on regarde qu'est-ce qu'ils font dans leur club, ça fait réfléchir. Et ces jeunes-là, si je n'ai pas à dire que certains entraîneurs font mal leur travail, mais je pense que des jeunes comme ça, il faut les encadrer, il faut les aider. Et aussi, il faut leur trouver des moyens nécessaires pour qu'ils puissent intégrer des écoles à l'échelle internationale. Moi, j'ai eu un contact l'année dernière. J'étais en stage au Real Madrid pendant 9 jours. Et j'ai retrouvé un jeune Algérien qui avait, je pense, 15 ou 16 ans, qui a un talent et qui venait de nulle part. Il était là. Mmh. Il n'est pas mieux que seulement, il a du talent, il est tombé dans un club où ils sont capables de l'amener à un niveau intéressant. Il est là. Alors, un Algérien, qui soit au Canada ou qu'il soit en Europe, s'il a une passion, s'il a une culture footballistique, s'il a du talent, mais on peut l'aider. Je pense qu'il y a des très bons entraîneurs algériens, et je le dis, je le répète, qui sont très bien formés et qui sont capables aussi de prendre en charge ces jeunes-là.
Monsieur Lekhel, concrètement, donc, qu'est-ce que vous comptez faire prochainement comme activité par rapport à la situation?
Écoutez, en premier lieu, on a 3 journées détection. Les 3 journées détection qui vont se dérouler le 24 avril, le 2 mai et le 9 mai. Ça se passe au collège Saint-Jean-Viani, sur Boulevard Gouin, à Rivière-des-Prairies. C'est un collège privé. Ça se trouve au 12640 boulevard Gouin Est. Et bon, on a loué des plateaux à l'année. On s'est engagé à louer des plateaux. Et à l'intérieur de ces plateaux-là, on va offrir à des jeunes qui méritent d'être là. C'est sûr et certain, on prévoit à peu près une vingtaine de jeunes par catégorie d'âge et de leur donner les moyens nécessaires, qui sont des entraîneurs bien formés, très bien formés même, et qui vont les suivre et au besoin même les placer dans des clubs ou les aider à intégrer des clubs qui ont des entraîneurs intéressants pour qu'ils puissent les encadrer et les guider pour leur développement futur.
Donc là, concrètement, c'est un appel à la communauté. Ceux des enfants qui sont nés en 96 et jusqu'à 99, ils doivent contacter, je donnerai le numéro de téléphone, c'est le 514-585-1011, 514-585-1011.
C'est le 450.
C'est plutôt le 450-585-1011.
450, je m'excuse, c'est le 450-585-1011. 450-585-1011. Les gens peuvent laisser un message et vous allez donc leur donner les indications par rapport aux journées, dépendamment de l'âge de leur enfant.
Exactement. On a une catégorie de 1998-99, 96-97-98-99. Ça, c'est quatre catégories d'âge où on pense qu'on est capable de faire un excellent travail pour les amener à un niveau intéressant.
Monsieur, juste un détail, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui habitent à Laval, à Longueuil. L'engagement, bon, ils vont venir pour cette sélection, pour cette détection que vous allez faire. Vous allez former des équipes de 20 joueurs. La suite, c'est quoi exactement? C'est quoi, pour que les parents sachent un petit peu de quoi il s'agit?
Bon, écoutez, c'est une excellente question. Le but des trois journées de dépistage, de détection, c'est juste pour avoir une idée de ces jeunes-là, de trouver les joueurs intéressants pour qu'on puisse les intégrer à l'intérieur du centre de formation jeunes talents. Et ces jeunes-là, ils vont être dans des groupes de 20 personnes. Une fois choisis, ils vont être choisis dans des groupes de 20 personnes et ils vont attendre à avoir en réalité entre 3 et 4 entraînements par semaine durant toute la saison. Probablement, on est en train de regarder est-ce qu'on va diminuer les périodes d'entraînement à l'intérieur de leur saison d'été. Ça, c'est à voir plus tard, mais on va les mettre en contact. Mais en premier lieu, ce qu'on veut, c'est de premièrement aller chercher ces jeunes-là qui ont du talent pouvoir les guider par la suite. On leur donnera des informations supplémentaires pour qu'ils puissent.
Ça va être juste la formation. Il n'y aura pas de match. Il n'y aura pas de. Vous n'allez pas comme aller à la Ligue Concordia ou s'inscrire. Genre, ça va être juste la formation pendant toute la session d'été, c'est ça?
Écoutez, bon, en réalité, nous on met l'emphase sur l'hiver. Le grand problème ici au Québec, c'est notre hiver qui est très très lent et que certaines équipes ne font aucune activité, ne s'entraînent pas. Et ces jeunes-là, vous savez très très bien que un jeune qui s'entraîne pas, il perd énormément, non seulement sur le plan physique, mais sur le plan technique. Oui, pour garder une habileté, il faut l'entretenir, il faut la garder toujours en activité, toujours la maintenir au niveau optimal. C'est sûr, si on veut atteindre le niveau intéressant qui est talent, il faut mettre le plus possible d'entraînement en place. Nous, on met l'emphase sur l'été, l'hiver. L'été, c'est sûr, on va mettre des entraînements. Les entraînements vont être vraiment bien réfléchis, bien structurés et bien bien pensés. Vous avez posé une question par rapport au match. Notre but, ce n'est pas de faire des matchs. Et on sait très bien que pour pouvoir atteindre un niveau intéressant, ça prend de la haute compétition. On peut pas dire que avec la petite compétition on peut avancer, non. Mais ce qu'on a, on a l'intention de faire, c'est de préparer des tournois à l'échelle internationale, des tournois. Moi, j'ai plusieurs tournois au niveau des États-Unis qui sont très très intéressants, qui a une participation des grands clubs européens, des grands clubs nord-américains. Et on a l'intention de participer avec ces tournois-là. On a l'intention de participer aussi à des tournois à travers l'Europe et aussi l'Afrique, qui est l'Algérie, le Maroc, la Tunisie aux besoins. Et on essaye de trouver quelque chose dans l'Asie, qui est les Émirats Arabes Unis, le Qatar et tout ça.
Donc, les groupes que vous allez avoir pour après la prospection, vous allez commencer la formation pour les quatre groupes, c'est ça?
Oui.
Vous allez les garder combien de temps pour les envoyer, les faire engager dans des clubs, différents clubs au Québec?
Écoutez, nous, notre but, c'est pas de les mettre dans des meilleurs clubs au Québec. Ce qu'on veut, c'est de avoir un œil sur eux, les suivre, avoir un profil de chaque joueur, regarder leur progression et au besoin, comme on dit, le but c'est pas de prendre un joueur d'un club et le mettre dans un autre club, c'est faux, mais par contre, on peut suggérer à des clubs de leur donner la chance de jouer à un niveau intéressant. Il y a certains joueurs qui méritent de jouer surclassé, on va peut-être essayer de parler avec leurs entraîneurs ou leur club pour essayer d'aller chercher un niveau plus haut, même s'ils sont un peu plus jeunes. Et au besoin, si on voit qu'il y a une situation qui est dramatique pour le jeune, mais on va demander aux parents de bien réfléchir et de bien regarder qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour essayer de les aider.
Monsieur Kell, comme vous savez, sûrement vous êtes impliqué, parce qu'en général, les entraîneurs... dans le domaine sportif, sont impliqués au niveau de ce qu'on appelle le concept sport-études. Vu que vous comptez donc travailler durant l'hiver, est-ce que dans votre projet, vous ne comptez pas essayer d'intégrer peut-être ces jeunes dans des lycées où, essentiellement, puisqu'on parle d'enfants qui sont quand même au secondaire, dans des lycées sport-études, parce que ça va leur permettre d'avoir plus de temps pour des activités sportives?
Écoutez, c'est une excellente question. Et en réalité, on ne peut pas être en compétition avec le sport-études. C'est une organisation, une association qui est indépendamment de la fédération. Et le but, ce n'est pas d'essayer d'aller chercher à être en compétition avec le sport-études, où c'est sûr et certain, si le besoin se fait sentir et qu'on voit qu'avec le sport-études, on peut améliorer les choses, c'est sûr et certain, on peut le faire. Souvent, nos jeunes, ils ont moins de chances à intégrer les sport-études, ils ont moins de chances à intégrer le centre national de haute performance au niveau de la Fédération québécoise, qui est quand même un centre très intéressant. Et aussi au niveau des équipes du Québec. Et nous, on a pensé à tout ça. Et le grand problème en ce moment, ce qu'on a vu chez nos jeunes algériens, et l'idée est venue de là, c'est qu'il y a un écart de la part de certaines ressources au niveau de la fédération ou certaines ressources au niveau des régions, faute peut-être que les parents n'ont pas les moyens, faute de tel et tel, ils se retrouvent à un moment donné sans activité, sans sport-études et sans équipe du Québec et sans le Centre national de haute performance. Alors, cette catégorie de gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir intégrer le haut niveau, mais sont laissés à eux-mêmes. Alors, nous, pour essayer de les aider, on va essayer de leur donner ce coup de pouce.
Vous avez, évoqué le problème financier et monétaire. Les gens, ils vont se demander, c'est sûr, si leur enfant va être accepté dans l'un de vos groupes.
Oui.
Est-ce que ça demande une cotisation de la part des parents?
Écoutez, en réalité, d'après le projet qu'on a fait, nous avons fait un peu le budget de ces activités-là. C'est sûr, il y a une participation qui vient des parents. Mais nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de minimiser les coûts le plus possible pour essayer de donner la chance à ces jeunes-là qui n'auront pas cette idée de penser où ils vont trouver l'argent. Parce que je le vis à tous les jours, j'ai des joueurs qui sont issus de la communauté, d'autres communautés ethniques, et qui vivent cette situation-là. Et le but, c'est d'essayer de leur donner... vous savez combien ça coûte un sport-études, ça coûte une fortune. Les équipes du Québec, ça coûte de l'argent juste pour la détection. Nous, on va essayer de trouver peut-être les moyens à travers notre communauté, au travers des sponsors. Mais c'est sûr et certain qu'il va y avoir une participation des parents qui ne sera pas des milliers de dollars. Ça va être peut-être quelques centaines de dollars pour une saison. Je pense que ce n'est pas exagéré, mais au moins qu'il y ait une certaine participation de la part des gens et qu'ils puissent au moins dire, mais écoutez, c'est pas gratuit, mais c'est pas très cher aussi.
Ce qui est tout à fait normal. Donc, nous avons le plaisir donc d'avoir reçu Monsieur Mohamed Lekhel, qui est président de l'association Cercle des sportifs algériens au Canada. Les informations à retenir les plus importantes, bien sûr, il y a l'objectif de l'association, mais à partir du 24 avril, donc le week-end prochain, il va y avoir des activités de détection, de sélection des enfants qui sont nés entre 96 et 99. Pour plus d'informations, il faut contacter le 450-585-1011, 450-585-1011. Monsieur le Président, le dernier mot,
c'est juste pour rajouter une information par rapport aux dates de dépistage ou de détection. Nous avons de 9h à 10h30 le groupe 98-99 et de 10h30 à midi le groupe de 96 et 97. Et ça, pour être là, il faut être au moins une demi-heure d'avance pour pouvoir prendre les certaines informations supplémentaires au niveau des parents et des jeunes.
Un dernier rappel pour l'adresse.
L'adresse, en réalité, c'est au 12640 Boulevard Gouin Est. C'est à Rivière-des-Prairies. C'est complètement au bout de l'île. C'est proche de Pont-le-Gardeur et Pont-Charles-de-Gaulle. Si vous prenez la 40, c'est la sortie Gouin. En sortant sur Gouin, vous prenez à gauche et vous êtes au centre sportif et culturel du Collège Saint-Jean-Vianney.
Et je rappelle que ça va se dérouler, donc la première, les premières séances vont se dérouler le 24 avril prochain à partir de 9h du matin pour les 98-99 et 10h30 pour les 96-97.
Oui.
Monsieur le Khel, merci beaucoup à Texas.
C'est moi qui vous remercie et j'espère qu'on aura assez de jeunes pour pouvoir leur donner ce qu'ils ont besoin.
Je pense que c'est important, les auditeurs qui nous écoutent, même s'ils n'ont pas d'enfants, peut-être il y a des voisins et des amis qui ont des enfants, qui sont intéressés, qui ont du talent, qui jouent ou jouent pas, mais surtout ceux qui jouent déjà dans des équipes de A, double A, ce serait intéressant qu'ils viennent participer, même des joueurs qui jouent dans le récréatif, mais qui ont du talent. Donc, en plus, moi, je tiens à mentionner que c'est pas tous les jours qu'on a des entraîneurs de niveau avec des licences A qui se mettent à la disposition de la communauté pour monter ce genre de projet. Atek Saha, Monsieur Khal.
C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée à tout le monde.
Merci beaucoup. Karim, donc, on va prendre la pause publicitaire et je vous rappelle qu'après la pause, notre sujet, ça va être retour sur le discours du président de la République, M. Bouteflika, qui a prononcé un discours à la nation après un très lent silence, puisque M. le président ne s'est pas adressé au peuple algérien depuis très longtemps. Un discours qui promet beaucoup de choses. On va l'analyser avec notre invité, M. Ali Houchine, juste après la pause publicitaire. On va revenir après la pause.
Le 2 mai prochain, les Canadiens seront appelés aux urnes. Pour bien comprendre les enjeux de cette nouvelle élection, restez à l'écoute de Radio Centre-Ville. Entrevues, commentaires, reportages, analyses, tout sera mis en œuvre pour vous parler des enjeux électoraux et ce, en 8 langues. C'est donc un rendez-vous sur les ondes du 102,3 FM, Radio Centre-Ville.
Les rencontres berbères de Montréal, un voyage musical et culturel au cœur et autour de la culture nord-africaine à Montréal et dans le monde. C'est un rendez-vous tous les mercredis de 13h à 14h sur Radio Centre-Ville.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplins Nouvelles Vagues. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplins Nouvelles Vagues, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Facebook, Radio Centre-Ville, OBN. Facebook, Radio Centre-Ville, OBN.
Vous avez un profil sur Facebook? Êtes-vous intéressé par les OBN? Sur Facebook, recherchez la page de Radio Centre-Ville. On a des offres intéressantes pour vous. Des produits et des services à super bon prix. Les sommes amassées servent à financer votre radio.
Facebook, Radio Centre-Ville, OBN.
Depuis 35 ans, nous permettons aux Montréalais et Montréalaises de toute origine d'échanger et de construire sur ce qui les unit. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb, avec vous à l'animation donc Karim et Lamine. Nous avons abordé dans la première partie de l'émission, donc nous avons plutôt reçu monsieur Mohamed Lekhal, président du Cercle des sportifs algériens au Canada. Il nous a parlé d'un projet donc de lancer une école de football pour les jeunes algériens, pour les encadrer, pour leur permettre d'atteindre le niveau, le haut niveau. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui ont intéressé à participer à cette activité de sélection qui va avoir lieu le 24 avril prochain, 450-585-1011. Notre deuxième sujet ce soir, ça va être le discours du président Bouteflika qu'il a adressé à la nation hier soir pour aborder cette question. Donc, nous avons le plaisir de recevoir notre ami et compatriote, donc Monsieur Ali Houchine, politologue, impliqué aussi au niveau de la politique québécoise et canadienne en général, mais aussi une connaissance, je dirais, de la politique algérienne et maghrébine. Dans le cadre de ses travaux de recherche, essentiellement dans le doctorat, il a abordé plusieurs de ces questions. Nous allons le recevoir aujourd'hui, bien sûr, avec vous, avec votre participation au 514-495-2597 pour commencer. Monsieur Ali Houchine, bonsoir et bienvenue à l'émission Taxi Maghreb.
Merci, bonsoir à tous les auditeurs.
Donc, Monsieur Houchine, pour commencer, un discours tant attendu, puisque au-delà des révolutions populaires et des tentatives de révolution peut-être en Algérie depuis le début de l'année, le président de la République ne s'est pas adressé à la nation depuis très très longtemps.
Depuis 12 ans.
Depuis 12 ans. Et bien sûr, en même temps, la date du 15 avril était aussi une date symbolique par rapport à son parcours de président, puisque ça fait exactement 12 ans qu'il est président. Vos premières impressions sur le discours du président?
Ben, c'est un discours.
Un discours politique.
Je pense que c'est un discours qui nous apprend quand même certaines choses. On apprend enfin que les droits de l'homme n'existaient pas en Algérie, que si ça prend des observateurs internationaux pour le vote, ça veut dire que les votes qu'on a tenus n'étaient pas bons. Si on doit faire la lutte aux fléaux sociaux tels que la corruption, népotisme, gaspillage qui sévissent et l'État, si l'État s'emploie à les combattre avec vigueur et détermination, c'est que 60 ans de ce régime n'ont produit que cela. Alors, peut-on accorder un quelconque crédit à des réformes issues d'un régime qui n'a su gérer ni rente, ni crise, ni quoi que ce soit? Je pense que la première étape pour le changement en Algérie, c'est qu'il parte.
Est-ce que c'est juste le président qui doit partir ou...
Tout le monde, le système. Il ne s'agit pas de simples réformettes. Il s'agit de restructurer l'ensemble du système, de repartir à zéro, de retourner à juillet 1962 et de reconstruire le système sur une autre base.
Monsieur Agin, je comprends ce point de vue-là par rapport à un changement profond qui va permettre donc de relancer l'État algérien sur des bases solides. Mais dans un contexte où peut-être ça serait utopique aujourd'hui de penser bien que c'est arrivé ailleurs, on voit qu'en Égypte, le président Moubarak avec ses enfants est en prison, personne n'aurait pensé il y a de cela quelques mois, quelques semaines même, que le président soit en prison, que le parti au pouvoir soit dissous. Ça c'est arrivé aussi en Tunisie, bien que le président tunisien a pu fuir, mais même les hommes politiques qui ont participé au parti au pouvoir en Tunisie n'ont plus le droit de se présenter. C'est la proposition actuellement du Conseil de la protection de la révolution tunisienne. Bien qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est pas la réalité algérienne, est-ce que le discours du président pourra être considéré comme une possibilité de changement, bien qu'elle soit partielle, et que peut-être que le système a compris qu'il vaut mieux faire les changements que d'arriver à ce qui est arrivé en Tunisie, en Égypte, et surtout pas ce qui est arrivé en Libye, qui aujourd'hui on se retrouve à une guerre infernale qui risque de détruire le pays, bien qu'on peut dire que la Libye était déjà détruite par Al-Qaddafi.
Bon, écoutez, pour moi, la question est simple. Un pays, une bâtisse qui est lézardée par un tremblement de terre de 7.3 ou plus, est-ce qu'il faut complètement l'abattre et reconstruire à zéro, ou est-ce qu'il faut la retaper? Je vais vous prendre un exemple, une anecdote assez amusante. L'église de Tizi Ouzou. À l'indépendance, on se posait la question s'il fallait totalement la détruire et reconstruire une mosquée ou s'il fallait tout simplement la retaper. On a décidé de la retaper. Je pense que ça a dû coûter 2-3 fois plus cher que si on l'avait complètement reconstruite. Et aujourd'hui, c'est une église-mosquée. C'est un peu... Alors, l'Algérie risque malheureusement d'être un peu... Elle est déjà assez clochardisée telle qu'elle est actuellement. Et si on fonctionnait, on essayait de retaper ce système, je ne pense pas qu'on puisse réussir. En tout cas, ça nous coûtera plus cher. Et je ne suis pas certain du résultat final.
Donc, d'après vous, ce discours n'apporte pas un espoir, même cet espoir, même si on peut dire que cet espoir peut être partiel?
Ben, écoutez, d'abord... Le système présidentiel, est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est ce qu'il faut dans les pays arabes? On a vu le résultat que ça a donné. Les parlements, la loi. Prenons la Constitution. La Constitution est un texte fondamental qui, dans un pays qui sait faire les choses comme il faut, sert à concilier le conflit. Quand il y a des conflits très sérieux, et c'est normal que ça arrive, on se réfère à la Constitution pour trouver des solutions. Chez nous, la Constitution, c'est un texte qui collige sur le moment le rapport de force du moment. Donc ce rapport de force et cette Constitution ne durent que tant que le rapport de force qui a permis à la rédiger dure. Quand il s'écroule, il faut refaire une autre constitution. C'est ainsi qu'on a eu, chaque président a eu sa constitution. Et il y a comme une sorte de ricanement du processus événementiel à ce niveau-là. Il n'y a pas de loi écrite là-dessus, mais un président en Algérie peut gouverner autant qu'il veut tant qu'il n'a pas sa constitution. Mais dès qu'il a sa constitution, il ne peut pas lui durer plus de 2 ans. Ben Bella 63-65, il est parti. Boumediene 96-98, il est décédé. Chadli 89-91, il est parti. Et le Zerwal 96-98, il est parti. Alors si monsieur le président actuel...
Il a touché la Constitution partiellement.
Il l'a touché partiellement, mais s'il devait la changer de façon radicale, il ne durera pas 2 ans. De toute façon, je ne pense pas qu'il puisse durer 6 mois encore. si on analyse comme il faut ce qui se passe, je crois qu'il est sur le point de partir.
Et ça, c'est une des possibilités aussi. Surtout hier, je pense, durant le discours, son état de santé, on a vu clairement que On n'a plus le président Bouteflika qui
parlait. Non, plus que cela, on a pu voir, je l'ai vu à la télévision sur Al Jazeera, et on a pu voir que c'est quelque chose qu'on l'a forcé à faire. Ça ne vient pas de lui. Donc, ce n'est plus un trois quarts président, c'est un 10% président.
On va prendre un premier appel à Louis, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, je connais Mahana.
Zoher.
Oui, tfadal Zoher.
Allô?
Oui, vous êtes sur les ondes, Zoher.
Oui, bonsoir à tous les auditeurs et les auditrices.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Alaykoum, l'équipe de Taxi Maghreb. Le président, il a manqué sa chance de tirer sa révérence et avoir tous les honneurs. Notre président, il fait plein de promesses. Et Rahasib Linnas, mais elle est un peu plus roule. Alors, gars, les promesses de en tout cas, j'allais être vulgaire, mais là, je vais m'abstenir. Mais les promesses de ce qu'il aurait dû promettre, c'est de se retirer de la politique ou de l'équipe de A. Vous connaissez, il y a des pères pour l'heure. Et le peuple algérien ne sont pas dupes. Parce que même ses prédécesseurs ont fait des promesses qu'ils n'ont pas tenues, ou je sais pas, il n'a pas une baguette magique pour régler les problèmes qu'on a. Et les problèmes qu'on a, il les connaît, il peut les résoudre, mais il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas. Ce n'est pas un président qu'on a, c'est un pantin. Donc c'est tout ce que je veux résumer et je veux laisser la parole.
Merci beaucoup à Texas Azoré. Merci beaucoup. Juste par rapport, en écoutant Zoher par rapport à une des possibilités que le président aurait pu, c'est de se retirer. Mais en fait, j'ai deux questions. La première question, elle est plutôt est-ce que d'une façon pratique, Bouteflika aujourd'hui pourra se retirer? Parce que c'est le dilemme de tous les pays arabes qui sont en train de connaître des révolutions. C'est sûr qu'en Tunisie, l'armée a pris le pouvoir et bon, elle a redonné d'une façon partielle un pouvoir intérimaire. En Égypte, l'armée a le pouvoir d'une façon totale et c'est elle qui décide aujourd'hui. C'est quoi les possibilités en Algérie, même si demain le président se retire d'une façon pratique? Est-ce qu'on va redonner le pouvoir à l'armée? Est-ce que c'est ça qu'on... Tout le monde pense que c'est ça le problème, c'est que l'armée a le pouvoir. Donc, d'une façon pratique, quand on parle du retrait du président, comment les choses vont se dérouler?
Ben, écoutez, là, justement, vous venez de poser et la question et vous venez de d'y répondre. C'est l'armée qui a le pouvoir. Donc, à partir du moment où l'armée a le pouvoir, que représente le président? On vient de dire que c'est certainement un exercice qu'on a dû lui imposer. Donc, le régime cherche à se revamper. Le régime, encore une fois, pour la énième fois, manœuvre pour essayer de s'en sortir. Dans le discours, il y a certains aspects absolument incroyables. On se croirait au PLQ. À la Commission nationale du PLQ, tant on parle de démocratie et tout ça, c'est incroyable. Mais le problème en Algérie, est-ce que c'est le problème des textes? Je ne crois pas. Et là-dessus, je crois que je suis d'accord avec M. Mehri quand il dit que c'est pas un problème de texte, c'est un problème de... Que signifie la loi en Algérie? Elle ne signifie absolument rien. Que signifient les textes? Que signifie quand vous vous retrouvez devant n'importe quel satrape, quel recours avez-vous? Absolument aucun. Donc pourquoi parler de loi? La Constitution, il faut qu'elle soit institutionnalisée. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens l'intériorisent comme une valeur, s'y réfèrent. Il y a des tribunaux qui travaillent avec. Comme ici, quand il y a un conflit, on va de palier en palier au niveau des tribunaux jusqu'à ce qu'on arrive à la Cour suprême. Et la Cour suprême, c'est les textes fondamentaux, c'est le texte fondamental, c'est la Constitution. Peut-on faire ça en Algérie? Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel en Algérie? Il est manipulé par les militaires, comme ils font ce qu'ils veulent. Et le pouvoir politique en Algérie n'est qu'une façade pour les militaires qui ne veulent pas gérer directement la chose politique. Donc ils la sous-traitent à des équipes qui sont là et on l'échange au gré des événements et des comment dirais-je, des ambitions de tel ou tel général. Il est clair que le DRS en Algérie détient les rênes et que tout changement commence par là. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que ce soit le système. Les quatre sources doctrinale à la base du système, à savoir l'armée qui est au pouvoir avec le DRS, à savoir cette absence de conciliation du conflit à l'issue de la guerre de l'indépendance, à savoir le jacobinisme d'importation, cette extrême centralisation
héritée du modèle français.
Donc, il faut déraciner ce régime et le reconstruire sur d'autres bases.
Je prendrai un appel. Salim, bonsoir.
Bonsoir, Alain, bonsoir, cher ami auditeur et auditrice. Kérim, qui est avec toi, Ali, aussi, pour son Salut. Intervention.
Merci.
Et aussi, monsieur le Khal, tout à l'heure. Bon, c'était clair, c'est-à-dire que moi j'ai suivi le discours qui était trop succès avec de grandes lignes, et puis il y a eu des journalistes algériens, des experts, des économistes, des politologues, etc., des associations, des partis, etc., qui ont peut-être assez bien plus ou moins décortiqué ce qu'il avait dit. Et tout le peuple algérien, d'ailleurs, on a donné le micro à pas mal de souches algériennes, des organisations, des simples citoyens dans la rue. Tout le monde était satisfait de son programme, si vous voulez, de son discours. Ok. L'élargissement, la conciliation, la démocratie, plus de liberté aux médias, etc. L'audiovisuel a parlé de pas mal de choses. On en revient ici au Canada, avec tout le respect que je dois à M. Ali, sa personne évidemment, ainsi que M. Zohair. Il faut, de temps en temps, il faut voir les choses sous un angle aussi positif. Il ne faut pas essayer aussi de... Chaque fois où on entend parler quelqu'un ici au Canada, il peine dans la négativité, le pessimisme, etc. Pourquoi ne pas, de temps à autre, essayer de faire une petite analyse, voir un peu les côtés positifs, les côtés négatifs, avec éventuellement des correctifs à apporter. Moi, c'est vraiment désolant. Hein. C'est très particulier ici au Canada.
Salim.
La diaspora canadienne, elle est en train de se définir comme étant pas une opposition au gouvernement algérien. On a besoin en Algérie d'apporter une aide, un encouragement, un boost pour notre groupe. Le discours, pourquoi n'a pas été prononcé aussitôt? Pourquoi nous mêler avec tout ce qui se passe dans le monde arabe? Nous, il a temporisé, et ça a été aussi intelligent de temporiser pour leur dire, nous, on n'est pas concernés par les crises politiques, évidemment, ce qui se passe. On a passé assez de temps, assez de moments, assez de problèmes en Algérie, et ça suit. Maintenant, ce que je respecte beaucoup plus, avec tout le respect que je dois à tous les compatriotes algériens ici, tout ce que je respecte beaucoup plus, c'est la population algérienne directement concernée en Algérie. Parce que à chaque fois où j'entends parler, c'est le même discours ici, des gens, des intervenants ici. C'est une, pas une opposition, c'est une attitude néfaste envers le pays. Nous, on veut que ça soit discuté. Bon, s'il y a quelque chose de bon qui s'est fait en Algérie, on doit le dire. S'il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait, qu'il y a des manques, etc., on doit le dire tout en évoquant certains correctifs, comme il venait de dire Ali. Mais complètement détruire à la base, ça n'arrange personne.
Merci beaucoup, Salim. L'idée est à Akjast et donc.
Merci beaucoup.
Je ne sais pas, c'est un commentaire de Salim que je trouve intéressant pour relancer le débat avec monsieur.
Oui, certainement.
Et moi, je vais ajouter par rapport à ce que Salim vient de dire. Dans vos interventions, ce n'est pas la première fois, nous avons le plaisir de vous recevoir plusieurs fois. Je me rappelle l'émission du 1er novembre 2004, où c'était une émission de 5 heures. On a eu le temps avec vous et monsieur et d'autres invités de parler un petit peu des raisons historiques du blocage du système, la relation entre les militaires après l'indépendance et tout ça. Pour revenir au point de Salim, je pense que tout le monde serait d'accord par rapport à votre première introduction sur le résultat du système politique en Algérie, où on arrive à une situation un petit peu catastrophique. L'élite algérienne a quitté l'Algérie parce qu'il y a une impasse. Être intelligent aujourd'hui dans une entreprise publique algérienne, dans une administration, est une tare, tout simplement. On est tous passés par là et on sait comment ça fonctionne. Mais par contre, pour revenir aux raisons subjectives et objectives, est-ce que le changement proposé pour déraciner toutes les sources du problème, c'est un projet réaliste, ou est-ce qu'on ne peut pas, bien que vous l'avez déjà répondu à cette question, est-ce qu'on ne peut pas espérer de trouver dans ce système des gens qui ont de la bonne volonté pour essayer de passer par une période transitoire?
Et période transitoire, 60 ans en transition, on va encore... Et je voudrais d'abord répondre à celle-là. Si les gens sont peut-être négatifs ici à Montréal, enfin au Canada, c'est peut-être parce qu'il y a la liberté d'expression. 60 ans de pessimisme ne peut mener qu'à l'expression d'un point de vue plutôt pessimiste. Et on aurait bien voulu être plus positif. Hélas, lorsque j'ai rencontré Aït Hamed à Lausanne en l'an 2000, on a eu une petite discussion un peu à la blague. J'ai dit, quand j'avais 13-14 ans, vous parliez déjà de constituante. À l'âge de 30 ans, vous parliez encore de constituante. Je me dis, mais qui... Il y a quelque chose qui a dû changer. Pourquoi encore? Et là, on est en 2011 et le problème de la constituante se pose plus que jamais. Nous sommes presque, encore une fois, au même point. Parce que tout ce qu'on a construit, hélas... Et je l'ai bien dit tout à l'heure. Vous savez, il faut décomposer les choses dans un changement. Il y a la finalité, il y a les moyens et les différentes façons de combiner les moyens pour atteindre la finalité. Alors, c'est au niveau de ces moyens que le problème se pose. Je crois qu'aujourd'hui, la finalité, on est tous d'accord qu'on veut une Algérie démocratique, ouverte. On a essayé l'État-nation arabe, centralisateur, etc., avec Boumediene, ça n'a rien donné. On a essayé l'islamisme, ça n'a rien donné. On est passé du socialisme directement au capitalisme débridé, ça n'a rien donné. Peut-on donner une chance, pour une fois, à la démocratie? Peut-on, pour une fois, donner ou parler directement au peuple? Vous avez vu le président, la première fois qu'il s'adresse au peuple, en 12 ans, il s'adresse sans même pas regarder la caméra. C'est du mépris le plus total. Et je vous dis que personne en Algérie, parmi les partis, ne s'adresse à l'Algérien directement depuis 1911. Quand un parti politique, un leader politique parle, il parle toujours à l'adversaire du moment. Hier, c'était le colonisateur. Aujourd'hui, c'est la cinquième colonne, l'impérialisme et tout ça. Et à travers ce discours, il parle aussi à ses concurrents, c'est-à-dire soit les partis politiques concurrents, les clans concurrents, etc., etc. Il parle toujours au nom du peuple sans jamais s'adresser au peuple. Et même dans cet ultime discours, on voit que, et c'est les journaux algériens qui le disent, c'est même pas nous, regardez ce qu'ils disent. Tout au long de son discours, le président n'a pratiquement pas levé la tête pour regarder ses concitoyens qu'il savait très nombreux à être suspendus à ses lèvres. Ironie du sort pour un homme qui ordonnait à ses compatriotes de lever la tête. Arfa arasake abba. Quand sa voix portait et que son poing tapait fort. Mais le pouvait-il? Voilà un petit peu le résumé. Et ça, c'est dans le Watan, c'est pas dans la presse de Montréal.
On va prendre un appel, donc, Saïd sur la 3. Oui, bonsoir Saïd.
Bonsoir Lamine, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vos auditeurs et vos auditrices. Donc, moi, c'est juste un petit peu pour répondre à Salim qui a une, vraiment une langue de bois, je ne sais pas en quelle voie elle a fait sa langue, en lettres ou en chien. Mais bon, moi, si je n'ai pas géré, c'est que c'est parce que j'étais un petit peu écœuré, bon, un petit peu, je dirais, beaucoup même écœuré du pouvoir algérien qui, écoutez, juste à voir ce qu'il a fait pour emprisonner les martyrs, enfin, je veux dire, la place des martyrs, grillager une place pour que les gens ne manifestent pas et ne crient pas leur désarroi. Ça, c'est un petit peu indigne au peuple. Donc, un pouvoir qui a peur de son peuple, je ne vois pas qu'est-ce qu'il fait encore là, et puis à faire des discours et parler de changer encore la Constitution, alors que avant-hier, il a changé la Constitution pour avoir un
troisième mandat.
Un pouvoir à vie. Et maintenant, il essaye encore de changer la Constitution pour renforcer la démocratie. Quelle démocratie va renforcer? Il n'y a jamais eu de démocratie en Algérie. Tant que la police politique est là, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de démocratie, rien du tout. Donc, moi, je dirais juste à Céline, parce que moi, il commence à me taper sur le système, mais ça n'a rien à voir avec je n'ai rien contre lui, mais qu'est-ce qu'il fait ici? On a besoin de lui en Algérie. Le pouvoir a besoin de gens comme lui. Alors, qui
nous
laisse un petit peu tranquille. Donc, voilà.
Merci. Merci, Saïd, pour.
Je vous souhaite une bonne continuité et bon courage.
Merci à vous aussi. Ouais. Donc, c'était Saïd. On vous rappelle que vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. Notre sujet, la deuxième partie de l'émission, c'est le discours du président à l'occasion de son 12e anniversaire à la présidence de la République algérienne. Il y a un auditeur qui nous attend. On va prendre une petite pause publicitaire puisque la pause nous est imposée par l'automate. On n'a pas le choix et on revient après la pause.
Et on dirait qu'il est familier avec le cinéma.
Oui, Francine, ton regard politique est encore bien aiguisé. Il y a sûrement eu un déclic qui a fait que ces images puissent en être partagées.
Tu fais une surprise!
Et quand je voyais ton film, j'ai pensé un petit peu au corps céleste.
Non, mais vous avez failli mourir.
Oui, une heure de cinéma. Derrière l'image, avec François Morando, Pierre Pageau et Guy Ménard. Vendredi, 15h.
Aimeriez-vous donner un coup de pouce à votre chiffre d'affaires? Votre entreprise est-elle dans la grande région de Montréal? Aimeriez-vous rejoindre de nouveaux clients potentiels? Radio Centre-Ville vous invite alors à vous faire connaître davantage. Plusieurs auditeurs de diverses communautés de Montréal pourront entendre parler de votre entreprise sur nos ondes. Pour vous renseigner sur les communautés que nous rejoignons et sur les possibilités qui s'offrent à vous sur Radio Centre-Ville, téléphonez au 514-495-8836. 495-8836 ou écrivez-nous à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de votre entreprise sur Radio Centreville.
Si votre matelas est abîmé par l'humidité, si les ressorts sont brisés, si vous avez des allergies, ou si vous avez des punaises de lit, Lidor peut régler tous vos problèmes. Lidor, 6552 Saint-Laurent, au nord de Beaubien. www.lidor.com.
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier, voyez les emplois.
Donc, vous êtes bien à l'écoute de l'émission Taxi Maghreb. On vous rappelle que ce soir, on parle du discours du président. Juste une petite correction par rapport à notre premier sujet avec Monsieur Lekhel, de l'association Cercle des sportifs algériens du Canada. Par rapport aux journées de sélection, c'est le 24 avril, le 1er mai et le 8 mai. Je rappelle le numéro de téléphone pour ceux qui ont des enfants nés entre 96 et 99, 450-585-1011. Et juste avant de revenir avec notre invité, Monsieur Ali Haouchine, j'irai avec deux appels qui nous attendent depuis tout à l'heure et on va revenir avec Monsieur Haouchine. Donc, Toufir, bonsoir.
Oui, bonsoir Salim, bonsoir tout le monde, salam alaikum.
Salam
alaikum. J'ai quelques points, j'ai premièrement un petit premier point, Salim, je pense que le type c'est un provocateur.
Ça va tout faire. Il a donné son point de vue.
Attendez. Je suis en train de le suivre depuis quelques semaines, c'est toujours, je ne sais pas ce qui se passe, je sais qu'il dit, mais ça, on a dit, il a fait dans un cadre constructif, et non pas dans un cadre pour essayer d'être contre tout le monde. C'est ça, c'est un petit point. Moi, il commence à me sortir par les oreilles, je ne le connais pas, mais alors il y a deux choses l'une. Il y a 36 millions de fous et c'est un génie, ou là on est 36 millions de gens normaux et c'est un débile mental. Donc une des deux. Bon, le monsieur Hada, les Rahna, s'il parle pour Haja Faïda le Bled, ou Haja Faïda le discours, ou Haja Saha. Si c'est pour Zama qui voulait que tu vois toujours négatif, Anna Hada, il vaudrait mieux, la Mac Haka est en train de provoquer les gens. Khalina Machi. Pour ce qui est de Bouteflika, Anna, en ce qui me concerne, je lui ai donné un petit surnom, Smita Hibernatus. Bon, Hnaya, les vieux, Hnaya, l'appelait Hibernatus, c'est Louis de Funès, où il est resté pendant 12 ans, Khalj donne un discours. Dernier discours qui a été très bien caricaturé par Guillaume sur Liberté. Nous sommes un couple de personnes devant la télévision où Gunaïni Khorjoum la télévision. C'est-à-dire Kharabich Khorjoum la télévision. Tout ce qu'il a dit pendant qu'il a parlé, parce que le discours je ne l'ai pas vu, je l'ai lu seulement en intégral sur le journal, parce que Mandis, je l'ai lu en intégral, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut retoucher encore la Constitution, il l'a retouché. شابا يقول يعمك الاخر بلي انستيتيوشن الى انستيتيوشناليزي الانفورمال الى انستيتيوشناليزي لا كوربسيون الى انستيتيوشناليزي سي بوندون لاخر تاع هو كو تو لي فليو سوسيو تاع نيمبورت كال بي كي سي ريسبكت ايزون ايتي انستيتيوي انستيتيوشناليزي دون نوتر بي. دروك الرشوه ولا شكون اللي يدي الرشوه هو الدرقاس تاع البلاد. عيب ولا فورمال لا فورمال ترك كاع ولاو دي مارشي الناس كاع ولات يحط لك الاخر ويبيع. يعني لا جو سي با انا هذاك الاخر ترك هو يقول لك باللي هو نعاونوه ايدي موا باسكو مع لا فان ديسكو تاع قال لا ايدي موا اون فالي دي افير كوا الى كاسي البلاد. On doit lui donner. Mais avec le nom de Ahoua, il va rester en lettres noires dans notre histoire. On n'est pas en train, on n'est pas pessimiste. Mais on est pessimiste. Même si le bled, je ne sais pas ce qui reste. Pourquoi est-ce qu'il parle pas? Où est-ce que Rabari Khourouj avec enfin. Avec l'autre, enfin, les coups de pied dans le postérieur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il
y a. Merci beaucoup, Toufiq Yatek Sahra, pour votre intervention. Comme ça, Nardou, donc, Belkacem, bonsoir.
Oui, bonsoir, l'ami. Bonsoir à tes invités et sans oublier les auditeurs.
Belkacem, il y a un écho, il faut éteindre la radio.
Ça va comme ça?
C'est mieux.
Très bien. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais, Nabda Benberg, bienvenue à une naissance dans la famille Kharchi. Rabbi Berg, Wizid.
Kursum Brok.
Mubrok, oui. Venia Hnia et le rétablissement à la maman. Inch'Allah, Taesh, Fiazhom. Pour le discours du président de la République, je crois, moi, je vais dire quelque chose sur ça. Premièrement, c'est des réformes miettes dans. Une réforme de contrefaçon. On ne peut pas faire, peut-être c'est des réformes dans le système. Comme j'ai un ami, il m'a dit, la nature, donc il avait raison. Et je voudrais dire, nous on a parlé depuis des années, hein, depuis qu'il a violé la Constitution, on s'est intéressé à cette personnalité, on a parlé, et ce qu'on a parlé, il a dit hier. La démocratie, c'est-à-dire en Algérie, la liberté d'expression, l'état de droit, ça n'a jamais existé, la justice n'a jamais existé. Il a parlé de la corruption, mais les gens ont dit je vais lutter contre la corruption. La corruption, vous l'êtes moubaha, tu elle marche dans la rue. On a dit ça, on ne peut pas être roi plus que le roi. La propagande, Ils sont trompés d'adresse. What I go, l'ANA, c'est des échecs et des échecs. Depuis l'indépendance, il a parlé de ça hier. Donc ça veut dire, ça ne va pas en Algérie. Il n'a pas dit que ça va totalement, ça ne va pas en Algérie. Et tant qu'il est là, deux mandats, il n'a rien fait. Le troisième, il n'a rien fait. J'espère qu'il ne va pas être là le quatrième mandat. Et en Algérie, comme je dis, c'est la politique de contrefaçon. Il n'y a pas une réelle politique. Smaillon, j'entends aujourd'hui les organisations de masse qui sont corrompues jusqu'au cou. Même la décriminalisation de délits du journalisme. Moi, je vais aller plus loin. Je ne suis pas un journaliste. Je demanderai est-ce que l'Algérie sera capable d'adopter une loi, le droit à l'information à l'information en Algérie, le droit d'accès à l'information. Je demanderai le droit d'accès à l'information. Est-ce que ça va exister en Algérie? On n'est pas informé, on ne sait pas la réalité, on ne sait pas la vérité. Donc il y a beaucoup de dossiers qu'on ne connaît pas en Algérie, mais si on a une loi de l'accès à l'information, on pourra même juger le président pendant son exercice.
Merci beaucoup.
Vous êtes d'accord avec moi, Lamine. Je voudrais terminer, Lamine, pour ce qui se passe dans deux secondes, sur le fédéralisme à Naya. Tu sais, on a parlé l'autre fois, on a parlé de tout. C'est que dans le débat des chefs, ce qu'on a parlé dans la radio, le droit et démocratie, on a parlé de le rôle du Canada dans la paix dans le monde. Il a parlé, je vous ai dit, pour la Libye, ça fait partie de la campagne électorale. Il a évoqué Stephen Harper. Et il a parlé de tout ce qu'on a dit. Donc ça a été dans les débats des chefs. Donc on est à la hauteur, je crois, nos émissions, le niveau va être là. Oui, j'espère qu'on traitera de beaucoup de sujets dans le bon sens et bonne écoute.
Yatek Saha, Bokassim, je reviendrai avec notre invité. Les auditeurs qui sont en attente, donnez-nous un petit peu 5 minutes. Je voudrais quand même revenir avec M. Ali Haouchine avant de revenir aux invités. La tendance générale, en tout cas peut-être comme Salim le dit, la tendance canadienne générale, c'est que le discours est perçu comme du déjà-vu. C'est une perte peut-être d'espoir dans le président et aussi dans le système. Surtout que le président, il faut le mentionner, au début de sa présidence, il a eu un discours beaucoup plus... بلغت الشعب كما نقولوا حنا il parlait تاع 7 اسبوعا ولازم نروح نحيهم ما تخلونيش وحدي donc il a parlé un petit peu de la réalité non pas seulement des textes. La question que je vous pose c'est on a vu l'expérience tunisienne qui est devenue aujourd'hui une expérience. Bon, même si moi je veux pas comparer pour comparer, beaucoup de gens vont considérer que l'Algérie a vécu ce que la Tunisie avait en train de vivre en 88 et même avant. Surtout qu'on n'est pas très loin aussi des événements du 20 avril 80. Donc il y a eu des révoltes populaires en Algérie qui ont eu un impact sur le système politique. Mais c'est d'une façon concrète. On a vu l'expérience tunisienne, égyptienne et libyenne aujourd'hui. Parce que Anna, j'ai donné les deux exemples. Dans le cas de la Tunisie, de la Syrie et de l'Égypte, c'était les militaires qui ont assuré une certaine transition. Et maintenant, il faut voir est-ce que cette transition va aboutir vraiment vers un système démocratique. C'est sûr qu'il y a des pas très grands qui ont été réalisés, par exemple en Égypte et en Tunisie, mais ça reste à voir. Concrètement, en Algérie, quand on parle des militaires qui doivent se retirer, aussi donc leur façade politique, comme vous l'avez appelé, concrètement, comment ça peut se faire? Parce que beaucoup de gens ils vont dire, bon, même si on ne croit plus à ce système, mais à part les promesses du président d'un changement vers une ouverture, qu'est-ce qu'on peut concrètement demander? Parce que le départ, concrètement, comment ça va se passer?
Mais je vais vous dire le départ. Bon, le départ, d'abord, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire la distinction entre la finalité, les moyens, les différentes façons de combiner les moyens pour réaliser les fins. La finalité, c'est d'avoir un système politique pour l'homme. La finalité, c'est pas une société socialiste ou une société capitaliste. Ça, ce sont des moyens. Le socialisme, le capitalisme, ce sont des moyens. C'est une société pour l'homme. De liberté. La simple liberté d'aller, de venir, de s'associer, de pouvoir gagner sa vie, de pouvoir fonder une famille. Et cela, une fois qu'on a dit cela, ça prend des structures pour encadrer tout ça. Donc ça prend un système ouvert. Un système ouvert, c'est un système qui permet aux gens... Il faut que le développement vienne des aspirations des gens. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'imposé. d'en haut. Ça ne marche pas. En comprenant cet élément essentiel, la première des choses à faire, c'est d'aller demander aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Et c'est à partir de là, à partir de ces aspirations-là, qu'on fonde un programme politique et dans ce cas-là, qu'on fonde des structures politiques qui puissent permettre à ces aspirations de se réaliser. Je voudrais pas rentrer ici dans des aspects techniques, concept de développement, etc. Mais on part, c'est-à-dire qu'il faut que l'État émane de la société et non l'inverse. Chez nous, l'État est imposé à la société. Il n'émane pas d'elle. Donc, c'est là le point de départ. Ensuite, au niveau des moyens, tout peut se discuter. Si nous avons des officiers éclairés qui sont prêts, qui comprennent et qui sont prêts à permettre de remettre le pouvoir à une autorité civile, eh bien, pourquoi pas ? Mais l'être humain, il faut bien comprendre, la philosophie nous dit que l'être humain est l'animal peut-être le plus accompli, mais en même temps le plus inachevé. Ça, c'est essentiel à comprendre. La société délègue à une partie de son corps social le pouvoir de détenir ce qu'on appelle l'exercice de la violence légitime. Donc on permet à une armée, à une police, à une gendarmerie d'avoir des armes, d'exercer une certaine violence sur la société, comme les contraventions, l'emprisonnement, etc., pour qu'il y ait de l'ordre. Mais en aucun cas, vous ne devez donner aux militaires qui détiennent une arme entre les mains le pouvoir de décider de son usage. C'est pour ça que dans les sociétés qui savent faire, le ministre de la Défense est toujours un civil. L'autorité civile est toujours au-dessus de l'autorité militaire ou policière ou gendarme. Parce que lorsque vous donnez une arme et le pouvoir de décider à un être humain, vous en faites un monstre. Et c'est ce qui nous arrive à nous. Ce sont des principes de ce genre qui doivent présider à l'élaboration des institutions. Une université qui est gérée, quel type de société voulons-nous ? Quel modèle de société ? Parce que si nous voulons un modèle intégriste, l'université formera des intégristes. Si nous voulons une société éclairée, l'université devra enseigner des valeurs pour éclairer. Donc, il y a un travail à faire avant même de poser la question des institutions. Quel type de société voulons-nous ? Et c'est ça ce que j'appelle, moi, la finalité. Au niveau de moyens, tout se discute.
On va prendre quelques appels. Donc, allô, oui, bonsoir.
Allô ?
Oui, Monsieur Khadraoui, bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Lamine.
Oui, tfadla, Monsieur Khadraoui.
Je vous remercie. Bonsoir, tout le monde. Monsieur Lamine, il faut qu'on s'entende.
Oui.
Je voudrais intervenir et j'ai 2 minutes, techniquement parlant. Hein.
Oui.
Donc, je veux mes 2 minutes à moi. C'est-à-dire que si vous avez des questions, vous me les posez après.
Ok, vas-y. On vous écoute, Monsieur Khadraoui.
C'est ça. On ne va pas sauter l'un sur l'autre, c'est très important. Je vais dire des choses et les gens vont comprendre d'autres choses. Vous dites vous avez 1 heure et demie pour dire ce que vous pensez. On s'entend ?
Mais par contre, M. Khadraoui, c'est qu'il y a un sujet, il ne faut pas juste sortir du sujet parce que sinon, c'est juste ça. Sinon, si vous êtes dans le sujet, vous avez 2 minutes.
Vous avez raison, je respecte ça. Il faut respecter le sujet. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je veux avoir mes 2 minutes à moi.
Vous avez déjà consommé 30 secondes. On vous écoute, M. Khadraoui. Allez-y.
Merci beaucoup. Et donc, vous savez, on est à une époque où il y a beaucoup de choses qui se mélangent, surtout en ces temps-ci. Là. Tout le monde est devenu révolutionnaire, tout le monde est devenu démocratique, tout le monde est devenu sauveur des civils, etc. etc. Et donc, pour le citoyen qui est ignorant comme moi, qui n'a pas beaucoup de, qui n'est pas politicologue, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas religieux, etc., il a de la difficulté à s'exprimer. Vous comprenez? Donc, humblement, je voudrais dire juste ce que je pense de cette situation en Algérie. Je n'ai pas entendu le discours de M. le Président Bouteflika, mais je voudrais juste dire que pour comprendre, peut-être qu'il faut, pour sortir de tous ces amalgames et ces enchevêtrements, il faut simplifier peut-être. Et vous avez rencontré quelqu'un qui travaille la terre, un paysan, quelqu'un qui s'occupe de ses affaires, qui va vous dire quelques paroles, il n'a pas un long discours, quelques paroles qui ont du sens. Donc je veux séparer. Donc je regarde mon pays, et après 130 ans de colonialisme, hein, qu'est-ce qu'on est? On est sorti comme des bourricots, des gens hébétés, des gens indigents, des gens. On avait une fierté. Et les dirigeants, ils ont essayé différentes choses durant 50 ans, 60 ans. Ils ont essayé différentes choses qui n'ont pas marché, je suis d'accord. Ah. Maintenant, ce qui m'étonne le plus, mes amis, c'est que tout ce que j'entends, c'est les critiques. Je trouve ça extraordinairement consternant. Je n'ai jamais entendu de gens qui parlent de construction. Alors, je dis à mes chers compatriotes, écoute mon cher compatriote, tu veux le fauteuil? Tu as le droit. Lance-toi en politique, crée ton parti, change les lois, change le système, mais de façon ordonnée, et on va tous te suivre. Ça va? Je pense que je suis assez raisonnable pour dire ça. Tu veux le fauteuil? On est d'accord avec toi, mais fais-nous la démonstration que tu es un homme ou une femme compétent. Je vous remercie beaucoup.
Merci, M. Khdraoui. Donc, on prendra notre appel. Oui, bonsoir. Je suis Maïna.
Abdel Fattah.
Oui, تفضل Abdel Fattah.
عجبتني التدخل تاع السيد اللي راهو عندك معروض فيما يخص الارمي.
Oui.
Sauf qu'il faut faire une différence. Quand on parle de l'armée, je sais que la plupart du monde ou des intervenants, il y a Kosdo, la direction de la sécurité militaire. Et j'aimerais ça qu'ils appellent chat. Parce que le problème de l'Algérie, c'est le général Tofir, c'est le bâtiment, c'est le ministère de la Défense nationale. L'armée régulière, ça n'a rien à voir. C'est ce qu'au contraire, c'est des gens honnêtes et tout, des jeunes. Le mal de l'Algérie qui m'a été mis, c'est l'araignée, c'est bien le général Tofir ou Jmatou. Ma kan ni Bouteflika, ni Ouyahia, ni Sidi Zakari. Ou salam alaikum.
Merci beaucoup. Un autre appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Non, je pense qu'on a, plus d'appels, on a perdu la ligne. Je ne sais pas, monsieur Houchin, je vous laisserai l'occasion de, peut-être de commenter les deux interventions avant de, que je puisse vous poser une question. Il nous reste à peu près 12 minutes, donc je vous laisse une première occasion de commenter les derniers appels.
Écoutez, au sujet du DRS et de l'armée, on peut rentrer dans un débat sémantique. Qu'est-ce que l'armée? Est-ce que l'armée, ce sont ces généraux ou pas? Alors, si ce sont les généraux, ce sont eux qui prennent, qui donnent les ordres, qui décident. Or, ce sont les généraux qui décident en Algérie. Le fameux cabinet fantôme, il est formé des généraux. Et bien sûr, le DRS, c'est le chef d'orchestre, avec Tofik Medien, effectivement, en guise de maestro. Ça, on le sait très bien, et c'est pour ça que j'ai dit dès le départ que ça faisait partie de l'une des bases du système politique algérien, malheureusement, avec l'absence de conciliation du conflit. Nous n'avons rien pour pouvoir concilier le conflit. On concilie le conflit en allant tuer des civils, en les massacrant et ainsi de suite. Pour changer un directeur de télévision nationale, et ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si on n'est pas content, on va égorger 65 personnes sur la rue du Média, et c'est comme ça qu'on fait qu'on passe le message à l'autre clan. Je ne crois pas que ce soit là des bases saines pour le fonctionnement d'un système, et c'est pour ça qu'il connaît tous les problèmes d'aujourd'hui. Celle de M. Khdraoui, je n'ai pas très bien compris où est-ce qu'il voulait.
En fait, quand je pose la question de M. Draoui, c'est plus par rapport au... est-ce qu'en tant que, qu'intellectuel, c'est pas de notre responsabilité de s'impliquer pour changer les choses, même si on sait très bien que le système en place bloque les initiatives, mais d'après ce que j'ai compris de son intervention, c'est que il faut qu'on ait le courage et aussi l'intelligence de bypasser les obstacles pour pouvoir changer les choses au lieu de juste critiquer. C'est ce que j'ai compris en tout cas de son...
Mais construire, il faut passer par la critique. Sinon, je vois pas comment on peut construire. Même dans n'importe quel travail universitaire, par exemple, on vous dit bon, l'introduction doit énoncer la problématique. La problématique, c'est comme on dit, c'est la thèse, l'antithèse et la synthèse. Donc, il y a une réalité et il y a une connaissance qui traduit cette réalité. Il faut que quand la connaissance ne peut plus rendre compte de cette réalité à cause des changements, elle propose une autre hypothèse de travail. Et ainsi, elle fait des études et elle aboutit avec un résultat qui est soit confirmé, soit infirmé. Ici, qu'est-ce qu'on a dit ? Est-ce qu'il faut réformer le système à partir de ce qu'il est ? Moi, je dis non. Il faut partir... ce serait plus coûteux de réformer le système à partir de ce qu'il est, et ce serait plus facile d'aller carrément de changer dès le départ et de le rebâtir sur d'autres. C'est-à-dire que quand, pour moi, quand Tim Baptiste a passé le test d'un tremblement de terre, elle est fissurée, lézardée, il est préférable de la détruire complètement et de la reconstruire à partir de ses fondations que d'essayer de la retaper, la repistoler. Voilà ce que je dis. Ça, c'est... Et une fois qu'on énonce cela, c'est très important. Il faut commencer à penser comment faire ce travail-là. Et effectivement, si j'ai un message à passer à nos confrères algériens, c'est de commencer à penser de l'avenir et de ne pas s'occuper de tout ce qui est régime, de tout ce qui est... Parce que tout cela est appelé à disparaître. Il faut penser comment reconstruire de telle manière à ce que nous ayons un pays pour tous nos enfants, un pays où on n'aura pas peur de mourir dans la rue, où ce qu'on appelle les droits de l'homme négatifs seraient garantis, le droit de ne pas mourir, le droit de ne pas avoir peur, de ne pas être torturé, de ne pas manger à sa faim, et ainsi de suite. Il faut plus que jamais penser toutes ces choses-là et essayer de dépasser un système fermé. Vous savez, encore un petit aspect peut-être technique, scientifique qui peut peut-être... La thermodynamique, dans son deuxième principe, nous dit qu'un système fermé, à l'intérieur d'un système fermé, l'énergie se dégrade en chaleur. Et le système finit par... Si votre moteur de voiture, vous ne le contrôlez pas, vous ne mettez pas d'eau, vous ne mettez pas d'essence, vous ne vérifiez pas, il finit par péter. L'Algérie est un peu ça. Ceux qui sont là, malgré leur bonne volonté, s'ils en ont, ils ne pourront pas changer le système. Quand vous êtes 60 ans dans un système dictatorial, vous ne connaissez rien d'autre. Comment pouvez-vous d'un seul coup devenir démocrate ?
Monsieur Houchine, donc on va écouter un peu de musique, juste une minute, et on aura à peu près une minute pour clore l'émission.
Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.
C'était Kanté Matob Lounas Lahmo. Donc, Monsieur Hachi, il nous reste deux minutes pour clore notre émission. Et une dernière question, je dirais une question qui demanderait peut-être deux, trois émissions, mais je vais la poser pour vous pour deux minutes. Les pistes de solution pour l'Algérie dans un contexte d'une Afrique du Nord en ébullition. Est-ce que vous pensez que, et même un petit mot sur le Maroc, parce que il y a une certaine similitude, il y a le discours du roi aussi du Maroc qui est dernièrement de celui du 9 mars, il y a le mouvement du fin février. Un dernier mot par rapport à l'Afrique du Nord, dans le monde arabe et dans ce mouvement populaire de changement.
À la base, je crois que nous devons commencer par lire Sophocle, plus spécialement Antigone, parce que dans la pièce de Sophocle, il met en place deux personnages qui incarnent deux façons de s'identifier à la patrie, à la nation. Il y a celle d'Antigone et il y a celle de Créon. Créon, c'est son père, c'est le chef d'État, qui pense que parce qu'il a été désigné chef d'État, il a droit il a tous les pouvoirs vis-à-vis de la société. Mais il y a Antigone qui vient lui rappeler qu'il y a des lois qui, non écrites, qui s'inscrivent au-dessus des lois de l'État. Et ces lois-là, nul ne sait d'où rayonnent leur lumière, mais elles sont là. Quand un peuple dit Arhal, Arhal, c'est le peuple, il ne peut pas y avoir quelque chose au-dessus du peuple. Et c'est le cas de ce système, il faut qu'il s'en aille. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a 6 mois, on est venu me demander si il y avait moyen de donner un coup de main pour monter une politique vis-à-vis des enfants handicapés éducationnels. J'ai dit non. Les gens ne comprenaient pas. J'ai dit non, c'est pas une question de volonté, mais c'est parce que ça prend des changements juridiques, des changements
d'éducation. Donc ça prend des changements.
C'est systémique. Il faut changer tout.
Merci beaucoup, Monsieur Ali Hachi. Voilà. Vous étiez avec l'émission Taxi Maghreb. On remercie tous ceux qui ont participé avec nous et ceux qui nous ont écoutés. À la fin, on vous donne rendez-vous dans deux semaines.